je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu du dernier cours. En tout cas, si vous avez quelques souvenirs, on s'était donc quitté avec la figure de John Henry Newman. Hein. Là aussi, c'est très frustrant de passer sur lui à toute vitesse, mais bon, c'est ainsi. Alors, je vais vous parler, on va commencer avec un autre anglais, disciple de Saint-Philippe Neri également, converti de l'anglicanisme également, ancien membre du mouvement d'Oxford également, donc vous voyez, beaucoup de points communs avec Newman, et en même temps, une personnalité assez différente, et tellement différente que les deux grandes figures ne se sont pas tellement compris. Bon, c'est Frédéric Faber, qui meurt en 1863. Frédéric Faber. Newman est typiquement anglais, si vous l'avez lu, enfin toute son histoire et puis ses fibres, hein, il est profondément anglais, tandis que Faber est parfois considéré par les auteurs comme, je cite, un Italien égaré en Angleterre. Un Italien égaré en Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a chez lui une forme assez romantique. Alors il y a aussi une citation un peu vache, enfin d'un critique qui dit: ces livres sont pleins de doctrines, mais ils sont pleins de mots également. Mots, M-O-T-S. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'emphase. Hein. Je ne sais pas verbeux, mais il y a beaucoup de choses. Et vous avez chez lui une insistance très forte sur l'amour affectif. Quand on dit l'amour affectif, c'est une relation affective avec le Christ, avec Dieu. Au risque de tomber parfois dans le sentimentalisme. Si vous connaissez Newman, c'est quand même beaucoup plus retenu à ce niveau-là. Hein. C'est un élément de différenciation. Alors, à la manière de l'école bérulienne, on trouve chez Faber une orientation christologique très forte, et notamment une concentration du regard sur les états du Christ. Ça vous rappelle quelque chose, hein, ces états du Christ qu'on a vus lorsqu'on a étudié l'école française. Très clairement, Faber n'écrit pas pour des élites, pour des âmes choisies, mais pour des baptisés ordinaires. Je le cite. « Mon but n'est point de montrer ce qui est parfait, mais ce qui est aisé. Je ne veux point conduire les âmes dans la voie de la spiritualité la plus sublime. Il y aurait autant de folie que de vanité à le tenter. » Je désire faire paraître la piété brillante et douce à ceux qui, pour être pieux, ont besoin, comme moi, de pareils secours. Vous voyez, il fait partie, alors je ne vais pas le mettre sur le même plan que Saint-François de Sales, mais il fait partie de ces auteurs qu'on retrouve un petit peu à toutes les périodes, qui ne sont pas des gens dont on ne va pas faire des thèses de doctorat sur sa doctrine spirituelle, mais en même temps, vous voyez, c'est très important si on veut étudier un petit peu ceux qui ont été des relais importants vis-à-vis du peuple chrétien pour nourrir les foules, les lecteurs dans les voies spirituelles. Alors, de fait, c'est un homme qui a été surtout lu par les émigrés irlandais. Donc, vous voyez, des gens qui venaient de l'émigration, qui appartenaient aux classes basses de la société et qui avaient une sensibilité assez proche de la sienne. Voilà. Il a été lu plus par eux que par ses compatriotes anglais. Alors, ça reste un homme quand même de grande valeur. Hein. Il a été un directeur de conscience qui a eu un très grand discernement et qui a eu une acuité psychologique très rare. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est vraiment qui mérite d'être nommé. Alors, je vous donne deux traités, notamment un traité de la direction spirituelle qui est reconnu comme de grande qualité, qui s'appelle « Marche en avant » ou « Progrès de l'âme dans la vie spirituelle ». Bon, « Progrès de l'âme dans la vie spirituelle », ça dit un petit peu l'orientation du livre. « Marche en avant », c'est son titre un peu choc. En France, alors une figure qui est à cheval sur le 18e et sur le 19e siècle, le père de Clorivière. Florivière. Alors, une figure très intéressante, bon, très riche, j'aurais beaucoup à dire aussi sur lui. C'est un ancien jésuite. Alors, non pas qu'il ait quitté Clos-Rivière, voilà. Il meurt donc en 1820. C'est pas un homme qui a quitté la compagnie de Jésus, mais c'est un homme qui a vécu le drame, on peut l'appeler comme ça, de la suppression de la compagnie de Jésus en 1873. Bon. C'est un homme qui a traversé la Révolution française, en étant en exerçant son ministère de façon clandestine, un homme qui a été un très bon témoin aussi, un des principaux apôtres de la dévotion au Sacré-Cœur. Vous voyez, à ce titre-là, il est caractéristique du XXe siècle. Mais il est intéressant aussi parce qu'il a fondé deux instituts, un de prêtres, un de femmes consacrées, qui furent des instituts séculiers avant la lettre. C'est des fondations de la Révolution française, donc il faut se cacher, il faut être clandestin. En même temps, vous avez des gens qui veulent vivre la vie consacrée. Et du coup, c'est un peu dans les événements, hein, que dans les circonstances, donc a été créée un petit peu cette formule de vie consacrée.
Comment ils s'appellent, les instituts ?
On aura l'an prochain, il y aura l'an prochain une session donnée par Chantal Régnier, qui est membre précisément d'un des deux instituts. J'ai peur de me tromper, c'est un nom assez classique du Sacré-Cœur. Attendez, est-ce qu'il y a le Sacré-Cœur ? Non, mais je vous donnerai ça, je ne vais pas passer. Alors, toujours 19e siècle, alors là, il est très célèbre. Très célèbre, si je vous mets ces dates, peut-être vous allez tout de suite. Piété sacerdotale, enfin spiritualité sacerdotale. Jean-Marie Vianney, donc. Curé d'Ars. Donc un modèle des orientations de vie qui en font le patron des curés du monde. Là aussi, si vous voulez, de fait, c'est un homme qui a une vie spirituelle très riche, qui a fait une découverte personnelle très forte de la miséricorde, qui a été un merveilleux conseiller, même accompagnateur spirituel. Et en même temps, vous voyez, on est bien en peine de mettre en avant des écrits de lui. Il n'y a pas d'écrit de lui, il n'y a pas un corps de doctrine, il n'y a pas... Alors, on peut le reconstituer après, mais c'est les gens qui font les tests sur lui. Ce n'est pas à proprement parler du Saint-Jean-Marie Vianney. Donc, vous voyez... c'est là, un peu dans cette étude, il y a à la fois les grands maîtres, bon, Saint Ignace, Thérèse d'Avila, etc. Puis vous avez des figures de sainteté qui sont à la fois des témoins, à la fois des explorateurs, à la fois des guides, à la fois des directeurs spirituels, à la fois des hommes ou des femmes qui ont un rayonnement considérable, et en même temps qui n'ont pas à proprement parler une doctrine spirituelle qu'ils laissent à travers des écrits. Bon. Il n'empêche, voyez, que sans que ce soit un auteur spirituel, au sens technique du mot, c'est très très important, évidemment. Donc, voyez, cette première partie du 19e siècle, Clos-Rivière, Vianney, Saint-Jean-Marie Vianney, bon, des gens comme ça, on est encore dans la phase de reconstruction, hein, reconstruction typique du 19e siècle. Alors, un autre témoin plus tardif, hein, on est plutôt vers la fin du 19e siècle, c'est Antoine Chevrier, hein, 1879. Antoine Chevrier, très belle figure d'apôtre, très belle figure de prêtre, on est toujours dans la sainteté sacerdotale, donc très belle figure d'apôtre au milieu des milieux très populaires de la ville de Lyon. C'est un fondateur, lui aussi, fondateur des prêtres du Prado. Un homme qui a été marqué un peu par François d'Assise et notamment par le détachement évangélique. C'est cet idéal de simplicité, de pauvreté qu'il présente dans son livre « Le véritable disciple de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc voilà un petit peu, je referme ce ce chapitre, enfin ce chapitre à l'intérieur du chapitre, sur la sainteté sacerdotale. Donc vous voyez des figures très belles, hein, centrées sur le Christ, avec un lien très fort avec le Christ. Mais la reconstruction du 19e, c'est pas seulement ça, c'est aussi, alors je crois que ça a un rapport avec notre travail, toujours dans la perspective de reconstruction, la reconstruction, j'allais dire, des outils, des institutions, des cadres. Alors, premier exemple, c'est Jacques-Paul Migne. Migne, qui meurt en 1875. Bon, c'est pas un saint. Est-ce qu'il faut, je ne sais même pas si on peut le mettre parmi des grands spirituels, non, ça n'en est pas un. Mais c'est en même temps un homme qui a fait un travail considérable, très important pour l'histoire de la spiritualité, dans la mesure où il a édité à peu près tous les pères grecs et latins. Si vous allez à la bibliothèque, vous verrez la patrologie de Migne, c'est des rayons et des rayons. Hein, là, ça se mesure en dizaines de mètres. C'est pas en centaines de pages, c'est en dizaines de mètres d'ouvrages. Et vous voyez, c'est un rôle très important parce que, à travers ce travail, c'est pour ça qu'il faut en parler dans ce cours, à nouveau le contact avec les pères est un contact facile. Parce que Migne, vous avez ça dans toutes les bibliothèques de séminaire. Il y a la patrologie de Migne. Et beaucoup de curés un peu érudits ou qui ont une petite bibliothèque ont, sinon tout Migne, en tout cas, des éléments de la patrologie de Migne. Donc, vous voyez, importance hein, de Migne. Alors, vous avez, là encore, reconstruction, mais là, théologique, un très grand auteur, Müller. Alors là, on est en Allemagne. Avec un umlaut. Müller. Donc, ces dates, il meurt en 1838. Très importante parce qu'avec lui, on a la redécouverte, la reconstruction d'une ecclésiologie renouvelée, vous voyez, moins sociétaire, mais plus mystérique et spirituelle. Ça, c'est très important. Alors, c'est un pionnier, hein. Ça va être ensuite poursuivi par Scheben, par les grands théologiens allemands de la fin du 19e, du début du 20e. Puis ensuite, vous avez beaucoup plus tard des gens comme Congar qui vont travailler dans la même direction, le père de Lubac. Donc, vous voyez, c'est une ligne qui commence là. Très important parce que, vous voyez, on sort un peu de cette espèce d'ornière dans laquelle on était rentré, 17e, 18e, très fortement, où l'Église était regardée comme une société. Alors, c'est vrai que le poids de la politique, le pouvoir politique sur l'Église explique pour une part cela, mais l'Église était regardée comme une institution et de plus en plus comme une institution, une société. Voilà. Là, on va à nouveau, grâce à Müller et d'autres auteurs du même genre, porter un regard beaucoup plus spirituel, ça ne veut pas dire moins théologique, mais beaucoup plus riche. L'Église comme mystère, voilà, ce qu'on redécouvre. Alors donc, vous avez Scheben, Passaglia, Franzlin, Schroeder, d'autres auteurs qui appartiennent tous au monde germanique qui vont développer cela. Et ça va apparaître dans une formule qu'on voit chez Léon XIII, donc le pape de la fin du XIXe, une formule qui est maintenant tout à fait classique pour nous, l'Église comme corps mystique du Christ. Alors vous me direz, tout lecteur de Saint Paul pouvait arriver à ça, évidemment, mais quand même... Ça avait été un peu perdu de vue. Donc, ouais, voilà. Quand je vous dis que le 19e siècle a produit des fruits, vous voyez, hein, qu'il faut sortir un petit peu de ce regard assez dépréciatif, hein, très sévère sur le 19e. Non, le 19e permet des redécouvertes. Il ne fait pas œuvre nouvelle au sens où il n'y a rien de génial, mais c'est des redécouvertes riches de promesses. Vous voyez ? Fruit à long terme hein, du travail de Müller et de ceux qui l'ont accompagné, cette formule corps mystique du Christ chez Léon XIII, qui va être reprise jusqu'à Pie XII et au Concile aussi. Hein. Alors, autre exemple, après Migne, après Müller et les théologiens de l'Église, Autre exemple de cadre, d'institution, etc., redécouvert, c'est la liturgie et tout le travail de Don Prosper Guéranger à Solesmes. Là aussi, c'est tout le patrimoine liturgique ancien, très traditionnel, qui est d'une certaine façon redécouvert et que l'Église se réapproprie. Don Prosper Guéranger, qui est le restaurateur de la vie monastique bénédictine en France, à l'abbaye de Solesmes, donc l'abbaye, si vous voulez, qui est le chef de congrégation de Cœur Moussa, pour situer, pour nous. Hein. Alors, on lui doit notamment la restauration du chant grégorien. Lui aussi a exercé une forte influence sur la spiritualité de nombreux baptisés, notamment avec la multiplication des missels des fidèles. On suivait, enfin beaucoup de fidèles suivaient la messe avec leur, on disait, son Don Guéranger.
Il y avait le Gaspard Lefebvre.
Il y avait aussi le Gaspard Lefebvre, mais vous voyez, ça, il a fait école. Mais c'est très intéressant, vous voyez, c'est que là aussi, c'est une redécouverte. C'est une redécouverte, vous voyez. Et on referme un petit peu où la parenthèse, la longue parenthèse, hein, 16e, 17e, 18e, où on participait à la messe en disant son chapelet, Don Guéranger, non, on ne fait plus ça. Alors, il faut du temps, hein, c'est l'éducation du peuple chrétien, mais très important. Alors, de Solesmes, la renaissance liturgique est passée dans d'autres abbayes, notamment en Allemagne et en Belgique. Et ça va donner naissance au mouvement liturgique du XXe siècle. Bon, ça, on y reviendra, mais des abbayes comme Marialard et d'autres, évidemment, Bayron, etc. Donc, je reprends, vous voyez, on a parlé un peu de la sainteté, spiritualité sacerdotale. Là, je dirais la remise en place des grands outils, des cadres. Et puis maintenant, on va voir un petit peu du côté du peuple chrétien. Je vous l'avais dit dans l'introduction, c'est l'âge d'or des dévotions, et notamment aux trois blancheurs. L'Eucharistie d'abord, avec un réveil remarquable de la piété eucharistique. La Vierge Marie ensuite. C'est le siècle de la définition du dogme de l'Immaculée Conception, 1854. Le siècle des apparitions de Lourdes, 1858. Le siècle du nouvel essor des pèlerinages, qui profite de la mise en place des premiers chemins de fer. Il n'y aurait pas eu Lourdes, ou en tout cas Lourdes n'aurait pas été Lourdes, un siècle plus tôt. Lourdes va profiter à la fois des chemins de fer et puis d'ordre nouveau comme les assomptionnistes qui vont mettre en place, assomptionnistes et dominicains qui vont mettre en place un petit peu, gérer, animer, susciter un petit peu tous ces pèlerinages, notamment vers Lourdes. Et puis donc, je vous ai dit l'Eucharistie, la Vierge Marie et troisième blancheur, le pape, c'est le temps où s'affirme l'ultramontanisme, là aussi, le 19e siècle règle son sort au gallicanisme, au joséphisme, au régalisme, etc., etc. Ça a été, si vous voulez, le fruit des doubles épreuves de la papauté. Hein. Premières épreuves, la Révolution française, et puis les incarcérations du pape sous Napoléon. Et puis, deuxième série d'épreuves, 1870, le pape qui se considère prisonnier au Vatican. Alors, il y a quand même des petits bémols à ça, c'est que la spiritualité du peuple chrétien est encore très marquée par le rigorisme, sinon même un certain jansénisme moral, même si celui-ci reflue, hein, à la fois, je vous l'ai déjà dit, grâce à l'introduction de l'enseignement d'Alphonse de Liguori dans les séminaires, Donc, presque un siècle après, hein, on peut dire que voilà, les effets se poursuivent, premier truc, premier élément. Deuxième élément, c'est aussi la dévotion au Sacré-Cœur et la référence au bon Dieu. Aujourd'hui, quand on parle bon Dieu, ça fait bon Dieu aux arts, tout ça, on plaisante. Pas du tout. À l'époque, c'est très important. Derrière le bon Dieu, c'est une image de Dieu. Et le nom, la désignation, si vous voulez, le souligne bien. C'est une référence très différente du Dieu un peu terrible du jansénisme. Donc, c'est pas à prendre à la légère ni en plaisantant. Le bon Dieu, ça montre bien un changement, si vous voulez, de regard, de perception, en tout cas, du mystère de Dieu. Alors, autre bémol ou autre difficulté que traîne le XIXe siècle, la crainte ou la suspicion jetée sur la vie mystique continue de peser. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait terminé. Jusqu'au début du XXe siècle, par exemple, dans les couvents de Carme, Saint Jean de la Croix, ouh là 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 là, on le met pas dans toutes les mains. Hein. Non seulement ça, mais on insiste beaucoup plus sur l'aspect ascétique que mystique de la vie, y compris donc dans un ordre comme le Carmel qui est en valant contemplatif. Donc, crainte et suspicion jetées sur la vie mystique, spiritualité de la réparation et de l'expiation. Il faut expier, vous voyez, il faut réparer les fautes de la Révolution, les fautes des Républicains, les fautes de ces affreux francs-maçons, les fautes, etc., etc., etc. Bon, exemple typique, la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre a été érigée en réparation des fautes commises en 1870 par les auteurs de la commune de donc cette révolte urbaine. Il s'agit de réparer, vous voyez, les outrages faits au Saint-Sacrement, les outrages faits à Dieu, dont on ne veut plus la présence dans la société. C'est en vis-à-vis, hein, cette spiritualité, si vous voulez, elle se nourrit aussi, à la même période, fin du 19e, d'une vie politique où, dans un premier temps, on essaye de mettre Dieu entre guillemets, hein, à l'écart, je parle de la France en tout cas, à l'écart de la vie sociale et de l'éducation. Bien. Alors, on se nourrit aussi abondamment à l'époque des auteurs et des œuvres majeures des siècles antérieurs. Exemple, la traduction par l'amener de l'Imitation de Jésus-Christ, un ouvrage du 15e, connaît un succès considérable à l'époque. Une extraordinaire diffusion. Alors que c'est, vous voyez, un ouvrage du 15e. Alors en même temps, les dernières décennies du 19e siècle sont témoins d'une renaissance mystique. Alors voilà, là vous voyez, c'est pas seulement renaissance de la vie chrétienne, c'est pas seulement renaissance de la vie religieuse avec toutes ces congrégations, avec les grands ordres qui petit à petit se reconstituent, c'est aussi, c'est ça qui est intéressant, la renaissance mystique, avec les apparitions à Catherine Labouré qui meurt en 1876. Catherine Labouré. Rue du Bac, la chapelle miraculeuse. Mais aussi les apparitions en général. Évidemment, les apparitions, ça oblige bien de se poser la question de la vie surnaturelle et plutôt de l'irruption du surnaturel dans la vie des hommes. Si Dieu est capable, ou plutôt si la Sainte Vierge est capable d'apparaître comme ça et de bouleverser un petit peu l'ordre du raisonnable, pourquoi s'étonner, pourquoi se scandaliser d'une vie mystique même marquée par des phénomènes extraordinaires? Donc, importance, vous voyez, de ces apparitions à la Salette, 1846, à Lourdes, 1858, à Pontmain, 1871. Vous voyez, tous les 12 ans, à peu près, vous avez une apparition importante. Hein. Et de cas plus complexes, comme celui de Catherine Emmerich. Alors là, c'est plus antérieur, 1824. Mais tout ça, ça ouvre les cœurs, les esprits aux réalités surnaturelles. Alors, c'est important parce que là aussi, hein, le 19e siècle un peu règle ses comptes avec la Aufklärung, c'est-à-dire avec une certaine contamination des chrétiens, y compris des catholiques, par l'esprit des Lumières. Alors, on n'avait pas abandonné la foi, mais en même temps, vous voyez, une sorte de contamination du raisonnable, du rationnel, y compris chez des catholiques. Tout ça, c'est important. Alors, bientôt, je reviens donc fin du 19e, de grandes figures spirituelles, des femmes notamment, offrent par leur vie, par leurs écrits, un message spirituel d'une grande valeur mystique. Les historiens s'intéressent peu à peu à l'étude de la mystique. En Allemagne, vous avez Görös, 1848. En France, eh bien, on peut citer Frédéric Ozanam, ça c'est première moitié du 19e, mais plus tard, Montalembert aussi s'intéressera à des mystiques. Donc vous voyez, on commence du côté des historiens à regarder les mystiques comme mystiques, voilà, sans s'offusquer, sans essayer de faire une relecture à la manière raisonnable des Lumières qui gomme ou qui arrondit tout ce qui peut un peu choquer un esprit, qui aurait choqué un esprit du 18e, mais qui choque de moins en moins des esprits du 19e. Ça va, vous suivez ? Bien. Donc, les historiens sont les premiers à s'intéresser au phénomène, et là, on commence à rentrer dans le 20e siècle. Ils précèdent les philosophes et les psychologues, qui, alors là, c'est plutôt à partir du 20e siècle, vont s'intéresser aussi à la réalité de la mystique. Alors, est-ce que vous auriez quelques auteurs à nommer qui vont s'intéresser ? Bergson, par exemple, les deux sources de la morale et de la religion. C'est intéressant. En plus, c'est un juif d'origine, et puis bon, qui les gardait, qui les restait jusqu'à la fin de sa vie.
Veil aussi, dans le même.
Simone Veil aussi, vous voyez, plus tard. Barouzi aussi. Donc, vous voyez, des hommes qui viennent d'ailleurs, hein, de l'extérieur de l'Église, et qui sont vraiment interpellés par le message des mystiques, et qui l'approchent comme philosophe, comme psychologue, bon, avec pour certains de graves limites, mais quand même. Et les derniers, d'une certaine façon, je durcis un peu en disant ça, hein, mais les derniers à s'intéresser aux mystiques, ce seront...
Les catholiques.
Non, les théologiens. Non, je durcis en disant ça, mais c'est presque ça. Ils ne viennent à ces sujets que tardivement. Alors, ça commence avec la question de la mystique, entre guillemets, la question de la mystique. C'est-à-dire l'analyse des phénomènes mystiques et leur rapport avec la vie contemplative. En fait, la question qu'il y a derrière, c'est en quoi les phénomènes mystiques, en quoi les phénomènes un peu extraordinaires, influent-ils sur la sainteté et sur la perfection chrétienne ? Est-ce qu'ils sont nécessaires ? Est-ce qu'ils ajoutent quelque chose ? Est-ce que ce sont des indicateurs de plus ou moins de sainteté ? Et c'est un peu toutes ces questions-là. Quel rapport ? Donc je conclue maintenant avec si, il y a quelqu'un qu'il faut que je cite quand même. Peut-être l'auteur spirituel le plus marquant, excusez-moi, je parle pour la France, hein, il faudra que je vois tous les pays, mais en tout cas l'auteur spirituel peut-être le plus marquant du 19e siècle, avant Thérèse de Lisieux, donc pour l'Angleterre, je dirais Faber, et pour la France, Monseigneur Charles Guay, qui est toujours lu,
Les vertus chrétiennes.
Voilà. Monseigneur Charles Guay, qui meurt en 1892. 5 ans avant Thérèse de Lisieux. Vous voyez, c'est vraiment un homme un sulpicien, et qui écrit de la vie et des vertus chrétiennes. Le plus lu de ses écrits, c'est un bon reflet de la spiritualité de l'école française. Là aussi, vous voyez, le plus grand auteur que j'ai à citer, bah, finalement, c'est un traducteur de l'école française. Ça dit bien, je crois que c'est, vous voyez, ça permet un peu de conclure pour ce 19e siècle. Vous avez à nouveau des lecteurs. Ça, c'est pas rien. Il y a beaucoup de lecteurs pour lire quelqu'un comme Mgr Gay, qui redonne l'école française pour les lecteurs chrétiens, pour les baptisés, qui redonne le christocentrisme. Alors, vous avez aussi chez Mgr Gay, c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois l'école française, donc Bérulle, et en même temps, l'apport de l'évangile de Jean, notamment l'apport des épîtres pauliniennes. Donc, qu'un tel livre, qui est quand même bien charpenté, vous voyez, et qui est assez austère, hein, c'est pas un livre d'accès beaucoup plus difficile à lire que l'Histoire d'une âme. Donc, qu'un livre comme celui-ci, austère, exigeant, riche, ait eu beaucoup de lecteurs, qu'il ait été très diffusé, voilà. C'est un très bon indicateur de ce qu'a été le 19e siècle. Quand on voit d'où on partait, hein, début du 19e siècle, la ruine, les ruines de la Révolution, les ruines des persécutions plus ou moins grandes de Napoléon, voilà, on part de quasi zéro, plus d'ordination pendant 15, 20, 25 ans, et puis voilà, on arrive à la fin du siècle, Mgr Gay, qui a un succès de librairie, au moins religieuse, avec un livre exigeant. Ben voilà, ça montre bien tous les fruits de ce siècle. Donc, je termine avec le 19e siècle. On va passer avec quelqu'un qui appartient au 19e siècle et qui en même temps le franchit. C'est Thérèse de Lisieux, morte en 1897. Là, on peut dire qu'on passe un cap qualificatif, vous voyez, de qualité. Qualitatif, pardon. Un cap qualitatif, évident. Bon, elle est docteur de l'Église, c'est quand même pas le même niveau que Mgr Gay, malgré toutes ses qualités. Son extrême popularité, l'étonnante et la fulgurante diffusion de son Histoire d'une âme, comme la faveur dont elle a joui immédiatement auprès de tous les papes du XXe siècle, signale déjà un statut tout à fait particulier. Dom Oury, donc le bénédictin, auteur d'une histoire de la spiritualité, la considère comme le principal maître spirituel du XXe siècle. Dom Oury, principal maître spirituel du XXe siècle. Le père Congar, vous connaissez peut-être ses appréciations, l'un des phares que la main de Dieu a allumé au seuil du siècle atomique. Le père Molinier, dominicain, il faut attendre Thérèse de l'Enfant Jésus pour retrouver un mouvement de spiritualité à l'échelle planétaire dont l'ampleur soit exactement aux dimensions de l'Évangile. Je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose qui est très révélateur. Peu après la mort de Thérèse, arrivent au Carmel 3 lettres pour elle. Ça va s'échelonner évidemment sur quelques semaines. 3 lettres, elle vient de mourir. Vous avez une lettre qui arrive du Canada, c'est son directeur spirituel Jésus. Donc, une lettre qui arrive du Canada, une lettre qui arrive d'Afrique du Nord, d'Afrique. C'est le père Bélière qui fait son noviciat. Et la troisième lettre arrive de Chine, du père Roulant, qui est missionnaire là-bas. C'est quand même... Vous me direz, c'est des coïncidences, c'est tout ce qu'on veut. D'accord. Mais comme symbole, vous voyez, à la Thérèse qui vient de mourir dans son petit Carmel de Lisieux, ignorée de tous, à part du petit cercle familial et des quelques carmélites de Lisieux, arrive, j'allais dire trois demandes, enfin trois lettres, trois, une du Canada, une de Chine, une d'Afrique. Bon, petit symbole évidemment de cette extraordinaire capacité qu'elle a à parler à toutes les cultures et je dirais aussi à tous les niveaux sociaux. Voilà. Donc je vous ai cité un certain nombre de personnes, je continue avec Pie XI qui déclare que la forme de spiritualité de Thérèse est une expression de l'enseignement fondamental de l'Évangile. Bon, voilà, j'en termine pour l'introduction. Maintenant, présentation archi-rapide de sa vie, vous la connaissez. Une vie sur 24 années seulement, entre Alençon et Lisieux, donc deux petites villes de Normandie. Entre la vie d'une famille aimante et chrétienne, bourgeoisie moyenne, si vous voulez, éprouvée par des deuils successifs, celle d'un certain nombre d'enfants de la famille, puis de la maman, puis du père, et le Carmel, où elle entre à 15 ans pour ne plus en ressortir. Donc, au niveau biographique, si vous voulez, c'est très pauvre. Alors maintenant, si je regarde un peu sa doctrine, il est, enfin, là, on peut entrer, discuter, hein, vous la connaissez au moins aussi bien que moi, on peut vraiment discuter, mais il me semble qu'il est finalement difficile de privilégier des points particuliers dans sa petite doctrine. Ou si on veut en privilégier, il faut en privilégier des tas. Et c'est ça qui est, me semble-t-il, très intéressant. C'est qu'avec elle, et c'est là où on voit, il me semble, un message spirituel de très grande valeur, c'est qu'avec elle, tous les grands équilibres catholiques sont présents. Tous les grands équilibres catholiques sont présents. Donc vous avez, par exemple, une authentique mystique qui a vécu une authentique relation personnelle intime avec Dieu, c'est incontestable. Et en même temps, vous avez une spiritualité qui est missionnaire et ecclésiale. Thérèse ne conçoit pas sa vie spirituelle d'une manière individualiste, dans un face-à-face uniquement avec son Jésus. Il suffit de voir à quel point la dimension ecclésiale, le souci ecclésial, la perspective ecclésiale, missionnaire, apostolique, est présente dans sa vie. Vous voyez, cet équilibre-là, par exemple. Autre équilibre, alors là... C'est très intéressant de voir comment un théologien, bon, en l'occurrence, je pense au père Frost, bon, quelqu'un qui a beaucoup connu, travaillé dans le milieu œcuménique, bon, s'intéresse à Thérèse, et qui relève chez Thérèse, vous avez chez elle l'expérience spirituelle de la foi justifiante. La foi qui justifie, si je suis sauvé, c'est uniquement par les mérites du Christ, j'y suis pour rien. En ce sens, Thérèse peut très bien parler à un protestant. Expérience spirituelle de la foi justifiante. Rapport intime entre la vie de foi et la parole de Dieu. Il faut voir à quel point Thérèse, et ça c'est tout à fait remarquable pour l'époque dans laquelle elle vit, elle est imprégnée de l'écriture. Et elle veut dire qu'à un certain moment de sa vie, il n'y a plus que l'écriture qui la nourrit. Et en même temps, chez Thérèse, on dépasse le soli fidéisme. C'est-à-dire que Thérèse est à la fois capable de tenir ensemble le fait que le salut est un pur don, elle le reçoit de Dieu, et si tout ce qu'elle fait, c'est vraiment Dieu qui le fait par elle, et en même temps, Thérèse tient très bien ensemble le fait que il lui est demandé, ou plutôt je dirais offert, de participer au salut des autres, et aussi au sien, dans le combat spirituel, qu'elle a une part aussi, sa générosité peut s'impliquer, si vous voulez.
L'acte d'offrande,
mais on pourrait dire aussi le combat. Il faut voir les témoignages qu'on a, par exemple, de Thérèse, maîtresse des novices, elle était très exigeante avec ses novices. Elle ne supporte pas, si vous voulez, des novices qui resteraient dans leur médiocrité ou qui resteraient consentantes avec des défauts, des complaisances, etc. Donc elle invite vraiment au combat. Et en même temps, vous voyez, chez elle, il n'y a aucune récupération. Un protestant pourrait, en lisant ses écrits, je crois qu'un protestant pourrait se sentir très à l'aise aussi. Et en même temps, vous voyez, elle dépasse le soli fideisme, c'est-à-dire cette exclusive portée sur la foi et la foi seule, sans les œuvres. C'est pour ça, vous voyez, il y a des équilibres chez Thérèse qui me paraissent tout à fait intéressants.
En théologie mariale aussi, où on tirait beaucoup vers Marie-Reine.
Alors voilà, une redécouverte. Alors, là aussi, c'est un point très intéressant. Thérèse, elle est fille de son temps, évidemment. Elle a reçu, comme chacun de nous reçoit de l'époque dans laquelle elle vit. Bon. Et en même temps, elle est capable d'écrire avec une maturité tout à fait étonnante. Elle écrit à l'une de ses sœurs, « Moi, je ne vois pas le Sacré-Cœur comme les autres. » C'est-à-dire que elle a vraiment tout pris de la dévotion du Sacré-Cœur, enfin, non pas de la dévotion, mais de la réalité théologique, spirituelle du Sacré-Cœur, de ce que ça représente, et en même temps, elle est capable de le dégager d'une certaine enveloppe, voilà, d'une certaine enveloppe dévotionnelle, vous voyez. Donc elle trouve le cœur, la réalité profonde, et en même temps, bon, capable d'aller de l'avant, quoi. Donc il y a beaucoup de... Je crois que, bon, chez Thérèse, et puis, bon, il me semble que chez elle, alors là aussi, ça fait partie de son génie spirituel, vous avez à la fois une théologienne, on peut l'appeler comme ça, qui témoigne d'une découverte contemplative mystique de Dieu, donc qui parle de Dieu, qui révèle Dieu, et qui le révèle, je dirais, en sortant des derniers oripeaux du jansénisme. Hein, Thérèse vraiment dégage les derniers... ce qu'on pouvait encore associer à Dieu et qui en fait était hérité soit du jansénisme, soit, je dirais, d'un rigorisme extrême. Hein, Thérèse vraiment va présenter Dieu tel qu'il est, enfin tel qu'il se révèle. Elle est une lectrice de l'Évangile, une traductrice de l'Évangile, voilà comment on peut la présenter. Et en même temps, d'une manière expérimentale, en étant simplement, en partageant simplement son itinéraire spirituel, ben, Thérèse dégage des grandes lignes d'une voie spirituelle. Ce qu'on va appeler la petite voie d'enfance, ce qu'on va appeler la voie de confiance et d'amour, bon, tous ces mots-là, on voit bien un petit peu ce que ça signifie. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, je crois, c'est la réponse, le chemin, la voie spirituelle que dessine Thérèse, toute de confiance absolue, de total abandon, d'amour, de réciprocité, il faut mettre tout ça ensemble, hein. Absolue confiance, total abandon, amour de réciprocité, c'est une réponse, ou Thérèse le vit comme une réponse, à ce qu'elle découvre de Dieu. Il ne faut pas inverser les choses, vous voyez. C'est d'abord sa découverte de Dieu qui va, d'une certaine façon, provoquer sa réponse, et non seulement provoquer sa réponse, mais dessiner le chemin qui va vers Dieu. Et avec aussi, je crois que c'est très intéressant, c'est que Thérèse de Lisieux, comme guide, a été, ben ça c'est un peu la pédagogie que Dieu a utilisée avec elle, est passée elle-même par des épreuves très profondes, vous voyez. Les crises de scrupules qu'ont pu connaître beaucoup de ses contemporains, du 19e et d'après, elle les a connues aussi. Donc elle peut les accompagner en connaissance de cause. Et plus que ça, alors là, c'est Thérèse la prophète, les grandes crises de l'athéisme et du doute, l'épreuve de la foi, Thérèse la connaît, la vit déjà. Hein, elle est contemporaine des grands maîtres du soupçon. Elle est contemporaine de Nietzsche, elle est contemporaine de Freud, elle est contemporaine de Marx. Thérèse va vivre, fin du 19e, une épreuve qui va l'accompagner jusqu'à son dernier souffle, hein, une épreuve de la foi dans laquelle, finalement, le discours des scientistes, le discours vraiment de la mort de Dieu, hein, l'annonce de la mort de Dieu, elle l'entend, elle le vit, elle passe à cette épreuve et elle trace un chemin aussi pour traverser ça. Alors, en même temps, comme tous les grands spirituels, il ne faut pas en faire des novateurs absolus. Thérèse aussi reçoit, il ne faut pas non plus nier ses influences, alors de la Visitation par sa tante et ses sœurs, aussi d'un saint Jean de la Croix, certainement, aussi d'une Thérèse d'Avila par le cadre du Carmel dans lequel elle entre et qui est héritée de Thérèse d'Avila. Elle est une héritière, en même temps. Mais en même temps, vous voyez, elle est, je crois, il y a quelque chose chez elle de tout à fait qui est sa grâce propre, son génie propre. Voilà. Je passe très vite sur elle, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup d'études. Je ne sais pas, certains d'entre vous, je pense que vous suivez la session peut-être du Père François. Alors, on va rentrer maintenant dans le XXe siècle, il nous reste un peu de temps. Alors, d'une certaine façon, on l'a fait déjà, on est entré déjà dans le XXe siècle avec Thérèse de Lisieux. C'est vrai qu'elle meurt en 1897, mais le grand siècle de Thérèse, c'est le XXe. C'est au XXe qu'elle est lue et qu'elle exerce son extraordinaire rayonnement. Alors, le XXe siècle, là, je vous avoue, quand on lit, c'est très intéressant, quand on lit les histoires de la spiritualité, jusqu'au XIXe siècle, vous avez des chapitres bien ficelés. Et puis, à partir du XXe siècle, on a l'impression que tous les auteurs baissent pavillon, s'estiment un peu vaincus devant l'abondance. Tout explose, on a l'impression. Avec à la fois une profusion de saints, de mystiques, la dilatation de l'horizon. Là, on en voyait jusque-là, on pouvait à la limite s'en tenir à un discours européen. Ça n'est plus vrai au XXe siècle. Vraiment, ça n'est plus vrai au XXe siècle. Et puis, on entre aussi dans un siècle qui évolue à toute vitesse. Le XXe siècle des années 20, 30, 40, 50, 60 encore, c'est plus du tout le XXe siècle des années 80, 90. C'est un autre monde. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est très, très difficile d'en parler. Et puis, il faut parler de quantité de choses. Bon, vous allez le voir, on va le faire. Je vous préviens, peut-être que c'était les siècles qui ont précédé étaient peut-être frustrants, mais celui-ci, ça va l'être encore plus. Parce qu'on va sauter à pieds joints par-dessus, je ne sais pas, l'Action catholique, par-dessus le renouveau charismatique, par-dessus. En fait, chacun demanderait un chapitre pour lui tout seul. Mais bon, ça va être un peu, vous verrez, des galeries de portraits. On va énumérer quelques noms. Puis, il y en a certains que j'ai choisis sur lesquels on va s'arrêter. Donc j'en ai pris trois. Charles de Foucault, ça me paraît quand même très important, Chiara Lubi et Don Escrivá de Balaguer. Alors je suis désolé, c'est trois Européens en plus latins, trois Européens latins méditerranéens, enfin des trois pays du pourtour de la Méditerranée. Bon, mais vous savez qu'ils ont eu quand même un retentissement très grand. Alors, un petit mot sur le contexte général de ce siècle et de ses traits caractéristiques. Eulogio Pacio en propose sept. D'abord, je vous l'ai dit, l'horizon qui devient de plus en plus mondial. Deuxième élément, une ère de transformation ininterrompue. Jusque-là, on était dans des mondes à peu près statiques. Vous me direz, il y a eu des révolutions, il y a eu des bouleversements politiques. Oui, c'est vrai. Mais grosso modo, les fils vivaient quasiment la même vie que leur père. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Troisième élément, un climat globalement positiviste. Alors, il faut mettre une petite nuance dans les pays occidentaux. Et donc, défavorable, plutôt défavorable à la spiritualité, c'est évident. Quatrième élément, les profondes évolutions économico-sociales, et notamment la massification. Le fait, si vous voulez, que tout le monde, quasiment, suive les mêmes programmes de télé. Et non seulement c'est la massification entre les couches sociales, le fait que le patron, par exemple, le patron et son employé regardent le même film. Autrefois, le patron allait au théâtre et l'employé, il lisait une histoire au coin du feu. Aujourd'hui, massification au plan social, massification aussi au plan géographique. Une série américaine, vous allez la voir au Bénin, vous allez la voir au Mexique et vous allez la voir en France. Walt Disney, c'est la culture mondiale, comme Coca-Cola, comme tout ce que vous voulez du même genre. La domination incontestée du quantitatif. Enfin, c'est très important. La domination incontestée du quantitatif. Avant-dernier point, je cite Pacho, mais je crois que ça donne à réfléchir. Donc il propose une insécurité généralisée, tant personnelle que collective. Je crois qu'on peut dire ça de la fin du XXe siècle. Une insécurité généralisée, tant personnelle que collective, génératrice d'angoisse. Ça ne me paraît pas faux. Enfin, une crise de la vérité et de l'objectivité. Ah, c'est très bon. Ce que Benoît XVI traduirait par le relativisme moral, mais pas que moral. À chacun son opinion, à chacun sa vérité, ça veut dire que la vérité n'existe pas. Alors, pour ce qui est de la spiritualité comme telle, elle affronte une sécularisation qui ne cesse de progresser. Et une sécularisation qui s'accompagne d'indifférence religieuse. Là, évidemment, c'est à nuancer selon les pays, selon les couches sociales, etc. etc. Et cette indifférence peut même devenir un anti-christianisme qui est devenu persécution dans quantité de pays. Quand vous regardez l'histoire du XXe siècle, c'est le siècle des martyrs. Il y a eu plus de martyrs au XXe siècle que pendant les 19 siècles qui ont précédé. Si on regardait une carte du monde, vous avez les martyrs en Espagne pendant la guerre civile, les martyrs au Mexique dans les années 30, les martyrs dans les pays qui ont subi le nazisme, l'Allemagne la première, les martyrs dans tous les pays qui ont été soumis au joug communiste, les pays aussi qui ont été victimes, alors dans certains cas, du fanatisme musulman. Pensez, par exemple, au Liban. Pensez à la Turquie, etc., etc. Quand même, c'est... Alors, l'antichristianisme, vous voyez, dans certains cas, c'est un antichristianisme, enfin, ou plutôt des luttes très anciennes. Pensez avec l'islam, c'est très ancien. Mais ce qui est nouveau, c'est des idéologies, vous voyez, anti-religieuses, anti-chrétiennes systématiques. Et, la spiritualité se confronte aussi à une recherche narcissique de soi, fin du XXe siècle, qui s'oppose au mouvement du don de soi. Ça, c'est un défi, évidemment, pour aujourd'hui. Alors, de tout ça résulte le fait que le christianisme a moins d'incidence et de moins en moins d'incidence sur la culture. Vous avez toutes les thèses aujourd'hui sur l'exculturation du christianisme. C'est pas l'inculturation, c'est l'exculturation du christianisme. Qui, du coup, n'atteint plus que des groupes d'élite. D'élite, c'est pas nécessairement d'élite par la richesse, hein, ou par le savoir, mais des groupes d'élite. À l'intérieur même de l'Église catholique, les années de l'après-guerre, alors ça c'est très important, je parle surtout des pays occidentaux, de certains pays occidentaux. Donc. Mais à partir de fin des années 40, début des années 50, vous voyez monter dans les milieux militants un discrédit de la vie intérieure. Accusé de détourner des responsabilités à l'égard du monde. Alors c'est là où vous aurez les thèses, la prière, la vie mystique, la vie spirituelle, c'est une fuite du monde, une fuite de l'engagement pour les hommes, etc. etc. Bon, vous entendez ça à ce moment-là. Et du coup, vous avez ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ces militants vont quitter les mouvements catholiques dans lesquels ils étaient engagés et transférer leur engagement sur le plan politique. Alors, c'est avec des décalages, par exemple, entre l'Espagne, la France, l'Italie, mais bon, pour le cas français que je connais bien, les pays que j'ai, Italie, Espagne, vivent la même chose, mais avec des décalages dans le temps. Hein. Mais pour ce qui est de la France, par exemple, les années 50-60, voilà, un certain nombre de syndicats, de partis politiques, je dirais de centre-gauche ou de gauche, ont récupéré quantité, comme cadre, ont récupéré beaucoup d'anciens militants de l'Action catholique qui voulaient plus d'efficacité, ouais, et qui vont prendre le marxisme comme grille d'évaluation, comme outil scientifique d'analyse des réalités sociales, etc., etc. Bon, on peut dire que le politique d'abord succède au spirituel d'abord, défendu en son temps par Jacques Maritain. Vous voyez, le politique d'abord remplace le spirituel d'abord. À partir des années 60, les nouveaux courants philosophiques et les jeunes sciences humaines entament une déconstruction de l'anthropologie traditionnelle. Donc l'anthropologie traditionnelle chrétienne, vous voyez, arrivée des sciences humaines, psychologie, sociologie, etc., etc., et on va vous montrer que derrière tous les phénomènes religieux, il y a en fait soit des mécanismes psychologiques qui jouent, soit des motifs, des processus sociologiques. Du coup, voilà. Et je termine, je ne vais pas vous laisser avec ces éléments négatifs, je termine avec une question, on va voir que la réponse est peut-être oui. Ne faut-il pas, malgré tout cela, à nouveau évoquer une nouvelle invasion mystique? Oui, pour une large part. Le XXe siècle va voir une nouvelle invasion mystique. Donc vous voyez, évidemment, un cadre difficile, hein, avec beaucoup de problèmes, de défis, etc. Et en même temps, la question, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une réelle invasion mystique au XXe siècle? La suite au prochain numéro. Dernier épisode, normalement, la semaine prochaine.
Une petite question. Et peut-être pour beaucoup de cela. Quel a été l'apport spirituel des prêtres ouvriers?
Deux, pardon?
L'apport spirituel des prêtres ouvriers.
Ah, on verra ça. Les prêtres ouvriers, oui.